le magazine des Nations Unies.
Le COVID-19 est notre ennemi commun. Nous devons déclarer la guerre à ce virus. Ces propos sont du secrétaire général des Nations Unies. Dans un message adressé au monde, Antonio Guterres en appelle à la mobilisation et à la solidarité pour ralentir la propagation du virus. Vous recevrez dans cette édition l'intégralité de l'adresse du patron des Nations Unies. De New York, revenons à Kinshasa, où la MONUSCO va respecter toutes les mesures des autorités congolaises et être guidée aussi par les recommandations de l'OMS dans cette guerre contre le coronavirus. Son porte-parole, Mathias Schilman, l'a déclaré jeudi dernier à la suite des décisions annoncées par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le porte-parole de la mission onusienne a souligné par ailleurs que la MONUSCO poursuivra son travail et ses missions pour accomplir son mandat, notamment la protection des civils. Et dans cette édition, le MAG UN vous propose aussi un coup de projecteur sur les dispositifs de contrôle sanitaire installés à l'aéroport international de Njili à Kinshasa, un des points d'entrée stratégiques du pays, avec notamment le point du directeur du programme national d'hygiène aux frontières. Voilà tout pour le sommaire de ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour. Ouvrons cette édition consacrée en grande partie à la pandémie du coronavirus. Actualité oblige. Dans un message pathétique aux Nations du Monde, le 13 mars dernier, Antonio Guterres a appelé les États du monde à se mobiliser et à faire preuve de plus de solidarité pour venir à bout de ce fléau. L'intégralité de l'appel du secrétaire général de l'ONU, recueilli par Honoré Missinga Kalala.
Chers amis, les bouleversements causés par le coronavirus, COVID-19, sont tout autour de nous. Je sais que vous êtes nombreux à être anxieux, inquiets, déconcertés, et c'est bien normal. Nous sommes face à une menace sanitaire sans précédent. Le virus se propage, le danger grandit, et nos systèmes de santé, nos économies et notre vie quotidienne sont mis à rude épreuve. Les plus vulnérables sont les plus touchés, en particulier les personnes âgées et celles et ceux qui ont des problèmes de santé préexistants, qui n'ont pas accès à des soins de santé fiables ou qui vivent dans la pauvreté ou la précarité. Les retombées sociales et économiques de la pandémie et du ralentissement de l'économie toucheront la plupart d'entre nous pendant plusieurs mois. Mais la propagation du virus atteindra un pic et nos économies se relèveront. D'ici là, nous devons agir ensemble pour ralentir la propagation du virus et prendre soin les uns des autres. Soyons prudents, mais ne paniquons pas. Laissons parler la science et luttons contre la stigmatisation. Même si la situation a été qualifiée de pandémie, c'est une situation que nous pouvons maîtriser. Nous pouvons ralentir la transmission, prévenir l'infection et sauver des vies. Mais cela implique plus que jamais d'agir sur le plan personnel, au niveau national et international. Le COVID-19 est notre ennemi commun. Nous devons déclarer la guerre à ce virus. Les pays doivent passer à la vitesse supérieure, intensifier et élargir leur mobilisation, en appliquant des stratégies de confinement efficaces, en activant et en améliorant les systèmes d'intervention d'urgence, en augmentant considérablement la capacité de dépistage et les soins aux patients, en préparant les hôpitaux et en veillant à ce qu'ils aient les installations, le matériel et le personnel nécessaires, et en mettant au point des interventions médicales qui sauvent des vies. Chacun et chacune d'entre nous a aussi une responsabilité, celle de suivre les conseils médicaux et de prendre les mesures simples et pratiques que recommandent les autorités sanitaires. En plus d'être à l'origine d'une crise de santé publique, le virus est aussi un fléau pour l'économie mondiale. Les marchés financiers sont durement touchés par l'incertitude. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées, l'investissement et la demande des consommateurs ont chuté, et le risque de récession mondiale est réel et ne cesse de grandir. Les économistes des Nations Unies estiment que le virus pourrait coûter à l'économie mondiale au moins 1 000 milliards de dollars cette année, et peut-être encore plus. Aucun pays ne peut faire cavalier seul. Plus que jamais, les gouvernements doivent coopérer pour revitaliser les économies, accroître les investissements publics, stimuler le commerce et assurer un soutien ciblé aux personnes et aux communautés les plus touchées par la maladie ou les plus vulnérables aux conséquences économiques néfastes qu'elle entraîne, notamment les femmes, qui assument souvent une part disproportionnée des soins. Chers amis, La pandémie met en évidence à quel point tous les êtres humains sont interdépendants. Toutes et tous, nous partageons la responsabilité de prévenir la propagation du Covid-19. Le système des Nations Unies, y compris l'Organisation mondiale de la santé, est pleinement mobilisé. En tant que membres de la famille humaine, nous travaillons 24 heures sur 24 avec les gouvernements, nous communiquons des directives internationales et nous aidons le monde à faire face à cette menace. Nous sommes tous concernés et c'est ensemble que nous surmonterons cela. Merci à toutes et à tous.
Covid-19 toujours, la MONUSCO s'accorde avec les autorités du pays et va respecter les mesures annoncées par le président Félix Tshisekedi. C'est ce qu'a déclaré jeudi dernier à Radio Capi son porte-parole Mathias Schillmann, que vous suivrez ici dans cet extrait choisi par Michel Kifindangoy.
Nous respectons toutes les mesures qui sont prises par les autorités nationales. Nous sommes guidés par ce que les autorités nationales décident, et notamment les mesures qui ont été annoncées hier par le président Tshisekedi. Et nous sommes guidés aussi par les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est dans cette perspective que les personnels qui revenaient des pays les plus affectés se sont mis en auto-quarantaine pour une durée de 14 jours, depuis déjà la semaine dernière. C'est dans cette perspective également que les contingents militaires de la MONUSCO qui allaient faire leur rotation. Ces rotations-là ont été suspendues. Tout déplacement non essentiel a également été reporté. Donc on prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'on ne contribue pas à une propagation du virus. Mais il est aussi très important de réaffirmer que la MONUSCO reste au travail. La MONUSCO va continuer d'assurer ses missions de protection des civils et mobiliser pour remplir notre mandat.
La RDC a franchi cette semaine la barre de 14 cas confirmés du nouveau coronavirus. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de l'hygiène aux frontières, a mis en place un ensemble de dispositifs de contrôle sanitaire à l'aéroport international de Njili. Objectif, éviter l'infiltration extérieure de ce virus à Kinshasa et épargner la capitale de la pandémie. Jean-Pierre Lali Koko s'est rendu sur place à l'aéroport. Son reportage.
Il est 11h37, c'est lundi 16 mars. Un avion des Ethiopian Airlines atterrit. À son bord, plus de 320 passagers, des étrangers mais aussi des compatriotes congolais en provenance de plusieurs pays. Ils descendent de l'avion en file indienne. Quatre employés du programme national d'hygiène aux frontières, tout en blanc vêtus, leur tendent de l'hydroalcool pour lavage de mains. Puis, les passagers sont passés au crible d'un thermomètre électronique. Une passagère à 38 degrés, c'est une alerte. Elle est vite conduite vers une ambulance médicalisée qui la conduit directement vers une tente d'isolement. Le reste de l'opération se passe sans incident. Chaque passager reçoit une fiche de renseignements. Le bus de débarquement déverse sa cargaison dans la salle d'accueil. Biboko Joseph, chef du pôle de PNF à l'aéroport international de Njili, explique le processus.
Nous procédons à un contrôle systématique, c'est-à-dire au pied de l'avion déjà. La prise de température est prise pour chaque passager. Et juste après, il y a le lavage de mains avec la solution hydroalcoolique. Et nous passons à l'étape suivante, qui est la remise de fiches. Et ça, c'est la première étape, c'est ce qu'on appelle communément le screening. Et une fois que cela est fait, le passager est pris en charge avec les bus et il est ramené au niveau de la salle d'arrivée où il sera accueilli par les agents de l'immigration. Et une fois que les formalités finies, nous passons encore à une deuxième étape et c'est celle qui concerne la prise de température au niveau de la caméra thermique.
Au total, quatre dispositifs du genre sont à l'aéroport.
À l'international, nous en avons deux. Nous avons une caméra au départ, une caméra au niveau de l'arrivée. Au niveau de la nationale, c'est de la même manière que nous avons travaillé avec Ebola. Nous devons avoir un œil regardant que les passagers bougent à tout moment et à n'importe quel endroit. Donc si nous ne nous veillons pas, ça sera triste pour notre pays.
Les quatre cas confirmés à ce jour auraient tous atterri à Kinshasa le 8 mars, à bord d'un même avion en provenance de la France. Ils sont passés à travers les mailles du même dispositif de contrôle sans être repérés. Du coup, les Kinois se posent des questions sur la viabilité et même l'efficacité de ces dispositifs. Mais les directeurs du PNF, les docteurs Ndungi Ndungi, Dédé, rassurent.
Nous sommes là pour détecter des voyageurs malades. Mais les quatre, quand ils sont passés, ils n'étaient pas malades, ils n'ont présenté aucun signe.
Quels dispositifs de surveillance à l'intérieur du pays et surtout aux frontières terrestres très poreuses?
Au-delà des quatre aéroports internationaux, de Njili, Luano à Lubumbashi, Bangoka à Kisangani et l'aéroport de Goma, il y a aussi des petits aéroports qui reçoivent des vols internationaux où nous avons placé nos agents. C'est vrai que, en ce qui concerne les frontières terrestres, nous n'avons pas croisé les bras. Dès le début de l'épidémie, nous avons ciblé quelques frontières.
Certains passagers congolais venant de l'étranger que nous avons rencontrés se félicitent des efforts du gouvernement. Thierry Diawa, lui, vient de Dubaï.
Un travail qui se fait vraiment dans les normes. L'appareil là qu'on met à l'oreille comme un revolver, ça se passe partout comme ça. Et aussi, en voyant tous les agents sont protégés avec leurs masques.
Le coronavirus se tue. À ce stade, outre les dispositifs mis en place à l'aéroport international d'Njili, les populations doivent intérioriser et pratiquer les règles d'hygiène telles que le recommande l'Organisation mondiale de la santé.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Restons dans le cadre du Covid-19 pour parler encore du dispositif de contrôle sanitaire mis en place à l'aéroport international de Njili, un des points d'entrée stratégiques du pays. Le docteur Ndungi Ndungi Dédé, directeur du programme Nation d'hygiène aux frontières, s'entretient avec Jean-Pierre Ilali Koko.
Docteur Ndungi Ndungi Dédé, bonjour.
Bonjour.
La RDC enregistre à ce jour ces quatre premiers cas de coronavirus, c'est bien officiel. Il s'est fait que ces quatre cas sont passés par votre dispositif à l'aéroport international. Ils ont été déclarés tous dans leur domicile le 8 mars dernier et tous les quatre viennent de la France. Les Congolais se posent beaucoup de questions sur la fiabilité de votre dispositif de contrôle sanitaire. Comment vous pouvez rassurer la population congolaise sur l'efficacité ou la fiabilité de votre dispositif de contrôle sécuritaire?
Avant toute chose, je voudrais rappeler que nous sommes Programme national de l'hygiène aux frontières, point focal national du règlement sanitaire international. Et c'est dans ce cadre que nous avons reçu mandat de contribuer à protéger les pays contre la propagation internationale de maladies et aider les pays à faire face à tout événement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale. Et cela, nous le faisons conformément au règlement sanitaire international de 2005. Et par rapport à cette maladie, le Covid-19, nous, en tant que programme national, nous avons pris des dispositions au niveau de tous les points d'entrée, en commençant par les aéroports. Je crois que vous venez d'être là, vous avez vu tout ce que nous avons mis en place. Alors, la question par rapport à la fiabilité. Nous sommes là pour détecter des voyageurs malades. Mais les quatre, quand ils sont passés, ils n'étaient pas malades, ils n'ont présenté aucun signe. Pour preuve, le quatrième cas, je crois qu'il y a 3-4 jours qu'il a commencé avec les symptômes et il l'a déclaré. Donc, ça signifie que nous ne travaillons pas aussi seuls au niveau des frontières. Il y a la continuité du service au niveau national. Toutes ces structures qui ont reporté les alertes, ils font tous partie du système de santé de la République démocratique du Congo.
Il y a beaucoup de rumeurs dans les réseaux sociaux, par exemple. Qu'est-ce que vous faites ici pour couper court à ces rumeurs et donner la bonne information?
Oui, avec la mondialisation, les réseaux sociaux, les rumeurs ne manquent pas. Mais moi, je demanderai à la population de suivre les communications officielles. Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, communique quotidiennement par rapport à la situation du pays. Tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, déjà qui racontent des choses, ne suivons pas ça parce que ça risque de nous désorienter. Nous avons la source officielle qui est le ministère de la Santé à travers Son Excellence, Monsieur le Ministre. On peut vous dire, il n'y a rien, rien ne se fait là-bas, ainsi de suite. Mais vous, vous venez de l'aéroport, vous avez pris des images. Si vous partagez toutes ces images au niveau de la population, je crois que la population se rendra compte que certains réseaux sociaux sont en train de nous désorienter.
Il y a quatre dispositifs de contrôle sanitaire, deux au niveau de l'aéroport modulaire, un autre au niveau de l'arrivée et des départs national, un autre au niveau des VIP. Comment expliquer qu'il y ait beaucoup plus de dispositifs au niveau du modulaire?
Oui, en fait, ça c'est pour renforcer les contrôles au niveau de la frontière. C'est vrai que c'est l'aéroport, mais il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Nous avons voulu couvrir toutes ces entrées-là de façon que tous ceux qui viennent soient screenés. Ce qui nous fait, en fait, la joie déjà, je peux le dire, tous ces cas identifiés se retrouvent dans notre base de données et nous avons les fiches qu'ils ont eux-mêmes remplies. Et au bas de la page, ils déclarent vraiment que non, sur honneur, toutes ces informations fournies sont vraies. Donc ça signifie que au moment du passage, on peut se permettre de dire qui n'avaient pas de symptômes. Nous avons les documents signés de tous ces 4 malades. Donc, le dispositif placé, c'est pour augmenter la chance de recueillir tout le monde. Ça fonctionne très bien parce que, à ce jour, tous ces cas identifiés se retrouvent dans la base de données.
C'est pratiquement le même dispositif qu'à l'époque de la riposte contre Ebola. Quelle en est la différence actuellement?
Oui, c'est pratiquement le même dispositif, mais il y a quand même une certaine différence, c'est par rapport aux fiches sanitaires de voyageurs que nous utilisons, elle est spécifique au coronavirus ou au COVID-19. Avec Ebola, les agents de la DGM ne portaient pas de masque. Aujourd'hui, quand vous partez, toute la plateforme aéroportière, que ce soit les bagagistes, ainsi de suite, tous ces gens-là, ils ont de masques pour se protéger. Du fait que la transmission est aérienne.
Un dernier mot et peut-être un message à la population.
Oui, le mot que je pourrais dire à la population, c'est que d'être calme. Les autorités sanitaires du pays ont pris la chose en main et les dispositions sont prises pour bien gérer la situation. Jusque-là, il n'y a pas de faille. Aidez-nous aussi à reporter certaines informations au cas où dans les quartiers, vous trouvez que quelqu'un venu de l'étranger mais présente tel ou tel autre signe. N'hésitez pas de nous contacter pour qu'au besoin que nous puissions intervenir. Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, a pris toutes les dispositions pour que le système puisse bien fonctionner pendant cette période.
Docteur Ndungi Dodé, je vous remercie.
En plus bref, le jeu Interagence des Nations Unies prévu au Danemark du 3 au 7 juin prochain ont été annulés. Une annulation qui entre dans le cadre des mesures préventives contre le coronavirus pour le personnel du système des Nations Unies et le pays hôte. Au niveau de la MONUSCO, quelques 150 membres du personnel et leurs dépendants s'étaient déjà inscrits pour participer à ce jeu. Les responsables de la mission leur demandent d'arrêter le processus de demande de visa. Le contingent féminin marocain honore les femmes leaders de Kiwanja, au Nord Kivu. En effet, en marge de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars, les composantes féminines de la MONUSCO ont tissé des relations avec les femmes de diverses communautés locales où elles sont déployées. C'est dans ce cadre que l'équipe d'engagement féminin du contingent du Royaume du Maroc a organisé une rencontre avec les femmes leaders de Kiwanja pour les honorer. Cette rencontre a permis de raffermir les liens entre les soldats de la paix et les femmes de Kiwanja et en même temps d'offrir une meilleure protection des civils. Enfin, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, dote la police nationale congolaise, PNC de Lubumbashi, d'une dizaine de bâtiments. L'inauguration de ces bâtiments a eu lieu le mardi 17 mars 2020. La construction de ces bâtisses a été réalisée avec le financement du gouvernement américain à hauteur de plus de 670 000 dollars américains. Elles vont abriter les commissariats et sous-commissariats de la PNC. Pour le gouverneur du Haut-Katanga, ces nouveaux bâtiments de la police vont aussi contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la capitale du cuivre.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Environ 1600 Burundais installés depuis quelques temps au Nord Kivu ont été rapatriés dans leur pays la semaine dernière par Uvira dans la province du Sud Kivu. Selon le HCR, jusqu'à leur rapatriement, ces Burundais n'avaient pas de statut de réfugié. Simon Englebert Lubuku, porte-parole adjoint du HCR RDC à Kinshasa, a donné cette précision au cours d'une interview. Simon Lubuku répond aux questions d'Honoré Missina Kalala.
Simon Englebert Lubuku, bonjour.
Bonjour.
Des ressortissants burundais, plus de 1600 en provenance de la province du Nord Kivu ont été rapatriés dans leur pays par le Sud Kivu. Il s'agirait, semble-t-il, des réfugiés ou des demandeurs d'asile en situation irrégulière. Quelle lecture fait le HCR par rapport à cette situation?
Bon, il faut savoir que le statut de réfugié est accordé à un individu. Et ce, après une étude de son dossier, au terme d'un processus qu'on appelle détermination de statut de réfugié, qui est fait par les autorités du pays et avec l'appui technique du HCR. Maintenant, pour le HCR, tout individu a le droit de demander asile quand cette personne se sent menacée pour échapper à une persécution. Et c'est pour cela que le HCR a été à plusieurs reprises rencontré ce groupe, mais nous nous sommes retrouvés face à un refus catégorique de ces personnes de demander asile. Donc on ne les considère pas, nous, en tant que HCR, comme des personnes relevant de notre mandat. Donc ils étaient à la disposition du gouvernement et soumis aux lois du pays.
Donc ces personnes n'ont pas le statut de réfugiés?
Non, ils n'ont pas le statut de réfugiés.
En dehors de ce groupe, il y a quand même des réfugiés burundais en RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. À la date d'aujourd'hui, combien y en a-t-il d'abord dans la sous-région et en RDC en particulier?
Dans la sous-région des Grands Lacs, il faut dire que les pays voisins du Burundi ont généreusement accueilli à ce jour 367 000 réfugiés burundais. Et en RDC, nous avons environ 47 500 réfugiés burundais. Mais il faut dire que dans la sous-région, le plus gros nombre, c'est celui qui se trouve en Tanzanie, où il y a 168 000 réfugiés burundais.
Par rapport à ces réfugiés burundais, l'année dernière, le HCR avait eu besoin de 296 millions de dollars. Qu'est-ce qui a été obtenu?
En fait, les 296 millions de dollars, c'est l'appel de fonds de cette année, 2020, que le HCR a lancé avec 36 partenaires humanitaires et de développement depuis le 16 mars dernier. Donc, nous sommes au début du processus et il faut dire que de ce montant, il y a 13,4 millions qui sont nécessaires pour les réfugiés burundais qui sont en RDC. Et jusque-là, nous n'avons pas encore 1% de ce que nous attendons. Cet argent devra couvrir normalement pour le compte de la RDC les besoins en logement, les soins de santé, la scolarisation des enfants réfugiés. Cependant, en 2019, la situation au Burundi demeurait l'un des programmes des réfugiés le moins financé sur 280. 93 millions de dollars demandés, on avait un déficit de 72%. Donc vous voyez qu'il y avait encore beaucoup à faire et par rapport à ce manque ou peu de financement, les conséquences sont énormes.
Un mot à dire par rapport à la situation actuelle qu'on est en train de vivre, parce que d'une manière ou d'une autre, quand on parle des gens qu'on rapatrie dans leur pays, on pense également au HCR.
Oui, quand on parle de rapatriement, on pense au HCR, on parle de rapatriement des réfugiés. Il faut pas oublier que le rapatriement, c'est toujours volontaire. Il faut que les personnes qui sont rapatriées en tant que réfugiés soient informées et qu'ils prennent la décision de manière volontaire pour retourner chez eux. Ça peut être avec l'assistance du HCR, comme ça peut être spontané, sans assistance du HCR. Donc, c'est ce caractère-là de volontariat dans les conditions de sécurité et de dignité, parce que ce sont des êtres humains, qu'il faut mettre à l'action.
Parmi ceux qui ont le statut de réfugié burundais en RDC, il y a un programme de rapatriement?
Pour l'instant, le HCR ne favorise pas le rapatriement vers le Burundi. Quoique on constate ça et là des améliorations dans le pays d'origine, mais la situation pour le HCR n'est pas encore favorable pour le rapatriement.
Alors, un mot de la fin?
Un mot de la fin, c'est comme on a parlé de financement, c'est dire que le HCR est disponible avec le staff pour travailler en faveur des personnes relevant de son mandat, les réfugiés, les déplacés internes, les rapatriés, les demandeurs d'asile, toutes ces personnes et les personnes à risque d'apatridie. Pour accomplir ce travail, nous avons besoin de financement. Cette année, par exemple, en RDC, nous avons besoin de 154 millions de dollars américains pour toutes ces situations. Il y a les réfugiés burundais, on en a parlé, les réfugiés rwandais, ceux venus de la République centrafricaine, du Soudan du Sud. Il y a aussi les Congolais qui sont déplacés, mais quand nous assistons ces populations, nous assistons aussi les autochtones, ceux qui ont accueilli les réfugiés. Et à ce jour, nous n'avons reçu que 6,1 millions de dollars, soit 4% de ce que nous demandons.
Simon Angebel, beaucoup merci.
L'intensification de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO dans la traque contre les ADF à Beni produit des résultats. Suivez plutôt ce dossier de Martial Papi Moukeba.
C'est pour faire face aux attaques des ADF et anticiper les actions de ces groupes armés contre les populations que les FARDC et la MONUSCO ont décidé d'accroître leur collaboration. Un accent particulier est mis sur l'échange des renseignements pour mieux traquer l'ennemi, comme l'explique le colonel Claude Raoul, porte-parole militaire de la MONUSCO.
Cette coopération s'est davantage accrue avec l'arrivée du nouveau commandant de la force, le lieutenant-général Costa Neves, qui met un accent particulier sur l'acquisition du renseignement afin d'anticiper les actions des groupes armés. C'est pourquoi les vecteurs aériens de la force, dont notamment le système d'acquisition et de reconnaissance, ont été utilisés de façon intensive ces derniers temps, de façon à pouvoir localiser de façon précise les éléments des groupes armés. La force de la MONUSCO met à la disposition des FARDC des renseignements très précis qui sont exploités.
Et c'est justement grâce aux renseignements fournis par la MONUSCO que les FARDC mènent actuellement des opérations de pilonnage des positions des ADF dans la jungle du territoire de Beni. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole adjoint des FARDC, souligne même que les unités formées par la MONUSCO en stratégie de combat dans ces genres d'environnement font même déjà la différence dans ces opérations. C'est ce qu'il nous dit ici.
Si nos hommes sont également aujourd'hui très actifs sur le terrain, c'est parce que la MONUSCO nous appuie en renseignement, la MONUSCO nous appuie en évacuation sanitaire, la MONUSCO nous appuie en logistique, la MONUSCO a formé nos troupes en combat de jungle. Et là, parmi les groupes qui font la différence, il y a les troupes qui ont été formées par la MONUSCO en combat de jungle.
Pendant que l'intensification de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO produit déjà des résultats sur les plans opérationnels, du côté de la société civile de Beni, on souhaite que cela perdure et débouche sur la fin des tueries des civils à Beni. Le général Sylvain Ekenge lui dit qu'un dispositif spécial a été mis en place sur l'axe Mbaou-Kamango, empêchant la mobilité des ADF depuis au moins un mois.
On n'a pas encore observé une attaque sur l'axe Mbaou-Kamango jusque au PK-40. Tout simplement parce qu'on a déployé un dispositif de défense costaud sur cet axe-là.
Sur terrain, les FARDC, appuyés par la MONUSCO, poursuivent leurs efforts de sécurisation de la population de Beni. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Et suivez cette question en rapport avec la situation sécuritaire à Masisi, au Nord Kivu. La question a été posée à partir de Goma au cours de la conférence de presse des Nations Unies du mercredi 11 mars 2020 et elle était destinée au porte-parole militaire de la MONUSCO.
Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Que dit la MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, par rapport à la situation sécuritaire dans les territoires de Masisi, Lubero et Walikale, où la milice des NDC rénovée de Guidon Chimirai installe son administration avec une police qui porte la même tenue que la police nationale congolaise?
J'ai parlé d'un travail de sensibilisation et c'est là que ce travail de sensibilisation a tout son sens. Nous avons les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise qui sont les seuls responsables et détenteurs de l'usage de la violence légitime. Aucune autre force ne devrait être autorisée à se battre, à soi-disant protéger les populations. Et je crois que c'est là que le gouvernement de ce pays et puis la MONUSCO, bien entendu, doit pouvoir parler franchement pour savoir qui fait quoi. La force est là pour accompagner les FARDC sur le terrain et la PNC sur le terrain. Voici ce que je peux dire.
Oui, j'ajouterais que, monsieur, c'est un problème auquel les militaires et les policiers sont effectivement confrontés, et y compris pour la MONUSCO, ça complique souvent les choses, c'est que parfois, des représentants des groupes armés ou des personnes non habilitées portent effectivement les uniformes nationaux. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille avec nos partenaires congolais. C'est évidemment une situation qui n'est pas acceptable non plus pour les FARDC et pour la PNC. Et donc on essaie de travailler à ce problème qui est effectivement une réalité.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Alors, vous avez 4 dates à retenir cette semaine pour les Nations Unies. Le 23 mars, c'est la journée mondiale de la météorologie. Le 24 mars, journée mondiale de la tuberculose. Le 25 mars, journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. Et enfin, le 27 mars, journée mondiale du théâtre. C'est la fin de ce numéro de magazine des Nations Unies. Jean-Pierre Elali Koko était à la coordination, la réalisation et au reportage. Honoré Missinga Kalala au reportage également. Mimi Kindou s'est occupée de la technique et moi, Babel Pongo Massimango, je voulais en présenter. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net. À très bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.